Libre à vous.
L'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Excusez-moi, j'ai eu un petit cafouillage dans mes notes, mais ce n'est pas grave. C'est le moment que vous avez choisi pour vous offrir 1 minute 30 d'informations et d'échanges sur les libertés informatiques et également de la musique libre. Nous vous convions ce mardi au Café Libre pour débattre autour de l'actualité du logiciel libre et des libertés informatiques. C'est le sujet principal de l'émission du jour. Également au programme, une cool AG, besoin d'adhésion et JDLE, une chronique de Laurent et Laurette Costi. Et enfin, une nouvelle pituite de Luc, l'humanité, c'est surfait. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission qui vous raconte les libertés informatiques, proposée par l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Étienne Gonu, chargé de mission affaires publiques pour l'April. Le site web de l'émission est libreavous.org. Vous pouvez y trouver une page consacrée à l'émission du jour avec tous les liens et références utiles et également les moyens de nous contacter. N'hésitez pas à nous faire des retours ou à nous poser toutes questions. Nous sommes mardi 26 mars, nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. À la réalisation de l'émission, Julie Chomard. Salut Julie.
Bonjour, bonjour à tous.
Et nous vous souhaitons une excellente écoute.
Cause commune, la voix des possibles, 93.1 FM et en DAB+, en Ile-de-France. Partout dans le monde, sur causecommune.fm et sur l'appli Cause commune. Pour participer à notre conversation, 09 72 51 55 46 et aussi sur causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous.
À cœur vaillant, la voix est libre de Laurent et Laurette Costi. Comprendre Internet et ses techniques pour mieux l'utiliser, en particulier avec des logiciels libres et services respectueux des utilisatrices et utilisateurs pour son propre bien-être en particulier et celui de la société en général. Laurent Costi, administrateur de l'April, fait cette chronique avec sa fille Laurette. Au programme aujourd'hui, une cool AG, besoin d'adhésion et JDLE.
Hé Laurette, c'était l'AG de l'April pas plus tard qu'il n'y a pas longtemps. Il faut que je te raconte, c'était vraiment chouette. Et il faut aussi que je te dise que tu nous as manqué.
Oh, mais comme c'est gentil. Mais alors vas-y raconte, alors vous avez refait le monde, vous avez voté, vous avez bilanté genre.
Bah si tu voulais savoir, t'avais qu'à venir.
Ouais mais non mais ça m'intéresse pas en fait.
Bon bah je te raconte quand même. D'abord, le matin de l'AG, on avait organisé des conférences éclairs. Alors je dis on, mais c'est une manière de parler, hein. C'est surtout les autres.
Oh, mais tiens, mais justement, je viens de retrouver mes paroles d'introduction à l'AG de l'année dernière. Je m'autocite, Laurette un an de moins. L'avantage pour toi, papa, c'est que quand tu as réussi à t'incruster sur la liste CA, tu peux usurper avec des chroniques pour Libre à vous, pendant que les autres compensent tes manques et donnent l'impression que la liste est efficace.
Alors ma flémardise ne serait pas récente.
Bah non, je pense pas. Mais sinon, j'ai vu le programme des confs éclairs, il y avait plein de trucs qui avaient l'air cool. En tout et pour tout, 16 conférences de 6 minutes sur une diversité de sujets, tous plus alléchants les uns que les autres.
Alors j'avais prévu de raconter justement chaque conférence ici tellement c'était bien. Mais 6 minutes x 16 nous ferait une chronique de 96 minutes, un peu plus que l'émission complète. C'est quelque peu excessif. On serait obligé de surcroît de supprimer toutes les pages de publicité qui n'existent pas pour tout caser.
Ah oui, ce serait bien dommage. Hein. Mais il faut raison garder, et d'abord, les gens, ils savaient qu'à être là. Non mais ça se fait pas de rater un moment pareil, quoi. Et aussi, par contre, l'ensemble des supports sous licence libre de ces confs sont accessibles sur le wiki de l'April. On vous met le lien sur la page de la chronique.
Alors bien dit, je n'aurais pas fait mieux. Sinon, l'après-midi, dans la continuité de l'accueil chaleureux que nous a réservé Polytech Sorbonne à Jussieu, qui, en passant, adhère à l'April, faites pareil, et on les remercie à la fois pour l'accueil et l'adhésion, l'AG a été ouverte par une conférence de Mathilde Saliou, qui a été journaliste à Next Impact et a écrit le livre « Technoféminisme, comment le numérique aggrave les inégalités ». Elle a parlé de diversité de genre et d'inclusivité dans le numérique. C'était très éclairant, surtout pour un homme comme moi, engoncé dans mon auto-centralité.
Eh ben oui, intéressant. Et après, vous avez déroulé les points statutaires et tout? En tout cas, j'ai lu le rapport d'activité, alors moi perso, je trouve qu'il manque un petit rapport moral en amont, mais bon, je chipote. Et il est juste remarquable par contre, tant sur le fond que sur la forme.
Bon alors sur la forme, c'est juste un truc de fou. C'est François Poulain, notre trésorier préféré, expert en yourt, qui produit ça. Et comme tu le disais l'année dernière, lors de l'ouverture de l'AG, je te cite, Laurette, un an de moins, c'est avec la tech qu'il fait ça. Mais ça se prononce la tech. C'est comme la place Breuil à Strasbourg. Ça s'écrit Broglie, mais ça se prononce Breuil. Sauf bien sûr pour les habitants qui snobent cette sophistication et prononcent Broglieplatz. Bon, parenthèse extrême orientale fermée.
C'est vraiment pratique hein, quand on a la bourre de repomper les textes des chroniques précédentes.
Et en plus, elles sont en Creative Commons by ESA, on n'a pas besoin de demander à l'auteur.
Eh, pratique, ouais. Et sinon, sur le fond, si j'ai bien compris, c'est ce qu'on appelle un travail collaboratif à contribution bénévole et à appui lourd des salariés. C'est tout foufou, tout ce que fait l'April avec ses moyens limités, quand même. Ah, je crois bien que je vais adhérer.
Mais voilà une excellente idée. Alors, d'autant qu'après, il y a eu le rapport financier. Et là, c'était un peu moins jovial, quand même. Mmh. Ça fait 2 ans de suite qu'on affiche un déficit. Bon, le CA pourrait se mobiliser pour une campagne d'adhésion, mais ça risque quand même d'alourdir encore la charge sur les épaules de mes camarades élus et sur les salariés. Non, le mieux, c'est quand même que toutes les personnes qui nous écoutent adhèrent ou doublent leur cotisation après cette chronique. Tu crois que je suis lourd en insistant comme ça sur les adhésions ?
Alors, attends, laisse-moi chercher. Lourdeur, voilà, non féminin. Je cite, impression de pesanteur pénible et aussi manque de finesse, de vivacité, de délicatesse, lourdeur d'esprit. Ah bah ouais, t'es relou.
Alors justement, après l'AG, une soirée sympa était prévue en rejoignant Césure, le lieu des savoirs inattendus. Eh bien, figure-toi qu'elle était très sympa cette soirée, justement. Bon, sauf il y a un truc que j'ai absolument pas compris. Tout le monde parlait de tarentule, ça m'a fait penser à ça.
Docteur Touchette,
qu'est-ce qu'il y a, mon petit garçon?
Ma tarentule, elle est malade, ma tarentule, elle est blessée, ma tarentule, elle marche pas, qu'est-ce qu'elle a, ma tarentule?
Montre-moi ta tarentule.
La voilà, ma tarentule.
Ta tarentule, elle est foutue.
Elle est foutue, ma tarentule.
Elle est bousillée, ta tarentule.
Tarentule, temps de la réparer?
Non, mais tarentule, amenez plus tôt.
Mais a priori, ça n'avait rien à voir, j'ai pas vu d'araignée.
Et t'as pas confondu avec genre spatule pour une soirée cuisine? Bon, et le lendemain, pas grâce mat, t'avais appris le camp à la FPH, la Fondation pour le Progrès Humain. Quel bilan, dis-moi, en 3 exemplaires, tires-tu de ce moment dominical qui t'a permis d'éviter la messe?
Ah bah alors, trop bien. J'adore éviter la messe, surtout quand j'y vais jamais, mais que j'aurais eu une excuse pour ne pas y aller si j'avais dû m'y rendre. Et surtout, j'adore la FPH. D'ailleurs, je remercie Vincent Calame pour son accueil à chaque fois discret et qui frise l'adorabilité. Et aussi, je m'esbaudis toujours de savoir qu'il y a des toilettes sèches jusqu'au 3e étage de la fondation pour économiser l'eau. Moi, je dis respect.
Ah bah ouais, non, c'est la classe, hein, certes, mais juste, on n'est pas un peu loin de notre quota de mots et de vocabulaire du monde libriste, là, juste.
Attends, je regarde le serveur de stats. Alors, avec l'expression « monde libriste » que tu viens de prononcer, on est à 0,42%. Effectivement, c'est pas bézef. Mais justement, on a eu une discussion extrêmement intéressante pendant l'April Camp. Paradoxe du logiciel libre émancipateur, posé par Pablo Rosi la veille lors des confs clairs, et logiciel open source.
Bah, la position de l'April est claire là-dessus. Donc, page 42 du site, on vous mettra le lien. Le mouvement du logiciel libre est avant tout éthique et philosophique, basé sur le partage de la connaissance et l'entraide, là où le mouvement open source met en avant les logiciels libres pour leurs avantages pratiques. En outre, le terme « open source » a souvent été utilisé dans un sens erroné pour qualifier des logiciels ne répondant pas aux critères de l'open source initiative. Le terme « logiciel libre » étant donc plus précis et renforçant l'importance des libertés, bah, il est utilisé par l'April.
Ah oui, moi aussi, bien sûr, je connaissais cette page et son contenu par cœur. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça a permis de reclarifier les esprits, car ce n'est pas toujours simple à appréhender. Bon, pas pour moi, hein, bien sûr. Par exemple, si la définition du logiciel libre était plutôt claire dans les esprits, celle de l'open source renvoyait parfois du positif et parfois du négatif par rapport au libre.
Ah bah, faut dire qu'il y a à boire et à manger, non?
Carrément. Et je distinguerais 2 grandes catégories. Il y a d'abord l'open source d'inspiration libriste, et il y a aussi l'open source d'aspiration libriste. Pour l'open source d'inspiration, ce sont les gens qui cherchent des voies pour améliorer notre société, mais qui, lorsqu'ils attachent une licence libre au départ à leur logiciel, la modifient et viennent contredire au moins une des 4 libertés du logiciel libre.
Et donc, si on simplifie, ils sont plutôt dans la catégorie « bons chasseurs », dans le monde du « il y a des bons chasseurs et des mauvais chasseurs ».
Bah carrément. Et dans la catégorie open source d'aspiration, on pourrait presque distinguer encore des catégories. Une catégorie Microsoft, Google, Dyson, par exemple, qui aspire tout, et une catégorie plus subtile, OpenTruck, Womanizer, qui contribuerait à minima.
Bon, bref, si je comprends bien, en tant que libriste, et si on regarde aussi avec le prisme progrès social, il faut pas oublier que l'open source et le libre sont proches et utilisent des licences majoritairement similaires.
Parfaitement résumé. Bon, j'accélère et je te passe le déjeuner avec la très bonne omelette commune initiée par mon camarade de CA Loïc Daillot, ainsi que la séance des réflexions autour du numérique acceptable, parce que là, présentement, il faut qu'on révise pour les journées du libre éducatif. On passe en fin de matinée vendredi.
Oh, mais c'est vrai, ça, c'est vendredi 29 mars, mais c'est dans 3 jours. Oh! Mais par contre, c'est surtout les enseignants et les enseignantes présents qui devraient réviser, parce qu'on leur prépare une sacrée surprise.
Tiens, on va aussi profiter des JDLA pour tenter une expérience. Comme on respecte les données de nos poditeurs et poditrices, et que ce n'est pas simple d'évaluer l'auditoire en FM, on a du mal à savoir si des gens écoutent Libre à vous et la chronique. Or là, on va pouvoir tenter une mesure d'audience à l'ancienne. Admire la subtilité du stratagème.
Oh, je sais, moi. On va dire un mot que les fidèles de la chronique reconnaîtront, un mot spécial, genre. Et là, comme ils auront écouté la chronique aujourd'hui, ils sauront qu'il faut répondre un truc, genre taper des pieds ou frapper des mains et tout. Comme ça, on saura qui écoute.
Ah, moi, je pensais à un questionnaire à l'entrée, mais bon, si ton stratagème est un peu moins subtil que le mien, on va quand même prendre le tien. Bon, et du coup, on choisit quoi comme mot ?
Alors, sans hésitation aucune, je pense, on va prendre Eggbalium, tu sais, le concombre d'âne, là. Et quand les gens entendront ce mot, eh ben, ils devront applaudir et siffler pour celles et ceux qui savent le faire, quoi. Enfin, siffler, pas applaudir.
Bah, ça va pas être évident à placer dans une journée consacrée au commun numérique dans l'éducation, mais on a bien réussi à les placer dans la chronique, donc y a pas de raison.
Oui, mais par contre, faut se donner une grille d'évaluation, papa. C'est obligatoire dans notre société, et maintenant, sinon, ça fait pas sérieux. Donc, imaginons, si moins de 2 personnes réagissent dans la salle, alors faudra se rendre à l'évidence. Tel Matt Damon, on est un peu seul sur Mars. Entre 2 et 4, succès moyen. Et plus de 4 et jusqu'à 1000, succès satisfaisant et agréable.
Ouah, top là, ça me va. Et je t'offre un verre pour fêter ça, un whisky grenadine. Mmh. En attendant vendredi, je te fais la bise au silicium de Dab, ma puce.
Cacou, je vais pouvoir faire des châteaux de sable avec tout ce silicium, dis-moi. Bon allez, bisous, à vendredi.
Retour en direct dans Libre à vous, l'émission qui vous raconte les libertés informatiques. Nous venons d'entendre à cœur vaillant la voix est libre de Laurent et Laurette Costi. Laurent et Laurette, qui interviendront donc vendredi 29 mars dans le cadre des journées du libre éducatif. Nous allons à présent faire une pause musicale. Après la pause musicale, nous vous donnons rendez-vous au Café Libre pour parler de l'actualité autour du logiciel libre. Avant cela, nous allons écouter Cold Burn par Lemon Knife. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles. Nous venons d'écouter Cold Burn par Lemon Knife, disponible sous licence Creative Commons Attribution, CC BY.
Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavoue.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast.
Passons maintenant à notre sujet suivant. Nous vous souhaitons la bienvenue au Café Libre, où on vient papoter sur l'actualité du logiciel libre dans un moment convivial. Un temps de débat avec notre équipe de libristes de choc issus d'une rigoureuse sélection pour discuter avec elle et eux et débattre des sujets d'actualité autour du libre et des libertés informatiques. Aujourd'hui avec moi autour de la table, Florence Chabanois, pardon, fondatrice de la Place des Grenouilles, membre corps de TechRocks et du Duchesse France. Pierre Pessac, informaticien libriste de longue date, fondateur d'Eriomen.net, un service de stockage de fichiers. Bonjour à vous deux et merci de vous être joints à moi pour ce temps d'échange.
Bonjour Étienne, bonjour à toutes et tous.
Bonjour tout le monde.
Et moi, je veux dire, je suis ravi d'animer ce au Café Libre parce que je devais le faire. C'est le troisième que j'ai. Enfin, j'ai déjà dû reporter deux fois pour différentes raisons mon animation de ce nouveau format. Donc, je suis vraiment ravi de partager ce moment avec vous. Et n'hésitez pas à participer à notre conversation au 09 72 51 55 46 ou sur le salon web dédié à l'émission sur le site causecommune.fm, bouton chat. Alors, pour se mettre en appétit, je vous propose de commencer par une nouvelle positive. Canonical fête ses 20 ans. Alors, Canonical, c'est sans doute peu connu, mais le logiciel que cette entreprise a développé et maintient, elle est sans doute beaucoup plus. Il s'agit d'Ubuntu, une distribution du système d'exploitation GNU Linux. Alors, G, un de nos chroniqueurs, y consacrait sa dernière chronique la semaine dernière dans le Libre à vous 203. Voilà, il se montrait critique, mais il exprimait qu'il n'imaginait pas, enfin, critique. Parce que rien n'est jamais parfait et que voilà, c'est une entreprise qui développe derrière et que parfois Ubuntu peut être un peu moqué, on va en parler. Mais en tout cas, il se disait que l'écosystème du libre serait très différent sans l'apport de Canonical et de Ubuntu. Et donc on souhaite un bel anniversaire à Canonical et puis longue vie. Alors qu'est-ce que ça vous inspire, vous, à ce Ubuntu quand vous y pensez, Canonical?
Bah moi j'avais une petite anecdote. Ce week-end j'étais à Liège et j'ai un ordinateur avec Mint, donc qui est un Linux dérivé d'Ubuntu. Et en fait, bah, d'habitude quand j'ouvre l'ordinateur, il y a le logo qui s'affiche, hein, et j'ai jamais aucune réaction. Et là, pour la première fois de ma vie, enfin ça fait pas non plus des années que j'utilise Mint, mais, un truc complètement inattendu. J'étais dans un bar en fait et là une jeune femme à côté de moi qui me dit ah vous utilisez Mint. J'étais sur les fesses. En fait, il y a un groupe d'utilisateurs Linux à Liège qui fait la promotion, qui s'appelle Linux Liège Team, LIT.be. Et ça montre que les choses avancent parce que c'est la première fois que des gens comme ça que je connais pas me remarquent un usage de Linux. Donc vraiment, les choses ont beaucoup avancé. Et puis, je m'en sers parce que c'est facile à utiliser sur un ordi portable et c'est plus facile à installer que Windows quand on achète une licence Windows. C'est une galère sans nom à installer ce truc-là. Il vaut mieux l'acheter sur un ordinateur neuf, en fait. Donc ça pousse en plus à acheter des ordinateurs neufs. Mais donc les Ubuntu et Mint, super. Voilà. Donc effectivement, on peut dire qu'il y a des soucis par rapport à l'aspect commercial, bien entendu. Hein. On est en droit de se poser des questions, mais globalement ça a énormément fait pour la facilité d'usage de Linux et son expansion.
Ouais, juste préciser, effectivement, ce que je parlais critique, je me suis un peu embrouillé là-dessus, c'est que parfois certaines personnes peuvent reprocher certaines approches commerciales qui pourront, vis-à-vis d'Ubuntu, de la présence ou la facilité d'installation de logiciels, mais ça c'est une question d'approche, ça reste du strict logiciel libre, Ubuntu est un super système, une très bonne entrée en matière au logiciel libre, ça il en est pas...
Et dérivé de Debian, il faut aussi le dire, voilà. qui est totalement libre.
Je suis fatigué, n'importe quoi.
Ouais, des fois, on se trompe. Moi, déjà, ça me rappelle que ça fait longtemps que j'ai commencé l'informatique. Du coup, parce que j'étais sur Mandrake, c'était ça mon premier OS non Windows, on va dire. Et je ne l'ai pas gardé très longtemps, Mandrake. C'est Ubuntu, en fait, effectivement, qui l'a emporté assez vite. Et typiquement, j'avais des espèces de poubelles d'ordinateurs portables qui ramaient pas mal, que j'achetais déjà d'occasion à l'époque. Et clairement, il n'y avait que Ubuntu qui marchait dessus. Et c'est vrai qu'en relisant l'article et en voyant la pochette, je sais pas, j'ai revoyagé 20 ans en arrière où je collectionnais plein de CD et je les installais partout. Donc ouais, quand même grande émotion. Et moi, je trouve ça... j'ai pas la partie critique sur Ubuntu parce que c'est clairement ça qui m'a quand même ouvert la porte concernant Linux. J'aurais jamais pu ou même envie de démarrer sur du Gentoo, des choses comme ça, quoi. C'est quand même ce qui l'a popularisé.
Il me semble que c'était une des forces reconnues d'Ubuntu, c'était de rendre accessible aussi pour des personnes qui n'ont peut-être pas l'habitude de l'informatique. À une époque où le logiciel libre était peut-être moins performant, j'utilise le terme, sur un terme d'ergonomie, parce que ça prend du temps de développer ça aussi. Et Ubuntu était quand même plus facile d'accès pour des personnes qui n'avaient pas ce recul. C'est mon sentiment à l'époque aussi, parce que moi, je ne suis pas du tout informaticien.
Moi, je peux le dire en tant que... j'ai aussi un côté béotien, au sens où parfois j'ai envie juste que ça marche. Quand on vient de Windows, on n'est pas trop dépaysé en fait par l'interface, les interfaces Ubuntu. Alors les interfaces aussi graphiques sur le libre, même hors Ubuntu, ont énormément progressé depuis 20 ans.
Moi je suis sur une Debian et je suis pas du tout perdu.
Globalement, les fonctions, même les fonctions de réglage du système, quand on veut régler les sorties écran, les haut-parleurs, les choses comme ça, ça c'est pas la même chose que Windows, mais on n'est pas dépaysé quand on vient d'un autre système en fait. C'est bien.
Et puis comme tout, c'est une question d'usage et de pratique en fait. On fait tout. Donc si vous connaissez pas Ubuntu et si vous n'êtes pas encore sur une licence, un système d'exploitation libre, on vous recommande soit d'utiliser Ubuntu, Debian, Mint, ce qui vous plaît. Essayez. L'avantage, c'est qu'en fait, on peut passer de l'un à l'autre. On peut aller voir des groupes d'utilisateurs de logiciels libres. Ben, il y en a dans beaucoup de villes de France. On peut les retrouver sur l'agendadulibre.org pour s'aider, être aidé et accompagné aussi dans l'installation d'un nouvel outil, d'un nouvel système d'exploitation, parce que c'est jamais si simple que ça, même si ça l'est beaucoup plus qu'avant. Et parfois, on peut vouloir être aidé. Mais en tout cas, voilà. Merci à Ubuntu. Merci Canonical.
Peut-être un petit mot, un dernier mot, c'est que avec le logiciel libre, il n'y a pas de problème de licence à payer, donc on peut prendre une clé USB maintenant, on peut l'installer, ce qu'on appelle une image live, on peut l'essayer sans avoir à l'installer. Donc ça, c'est une énorme force, donc on peut vraiment passer sa vie à tester des systèmes pour voir s'il y en a un qu'on préfère à d'autres.
Et c'est une bonne raison aussi d'aller dans des événements libres. Souvent, il y a des stands, etc., qui peuvent proposer, il suffit de regarder qui est présent, ils peuvent proposer des démonstrations de leur système d'exploitation. C'est une manière de voir si l'ergonomie convient, si ça répond aux besoins d'usage, etc. Effectivement, ces systèmes de clés USB sont un bon exemple. Bon, à nouveau, joyeux anniversaire donc à Canonical et longue vie à Ubuntu. Je vous propose de passer à notre sujet suivant. Alors, j'avais vu Fred utiliser cette clochette, je suis ravi de pouvoir l'utiliser. À mon tour.
C'est pas la clochette de Bookinet, ça, normalement?
Je connais pas son histoire. Je sais qu'elle est jaune April.
Clochette libre partagée.
Alors, pour ce sujet suivant, moi, je vous propose, puisqu'on est au mois de mars, alors le mois de mars, bien sûr, c'est l'arrivée du printemps, mais c'est aussi une autre date très importante qui est le 8 mars, à savoir la Journée internationale des droits des femmes. Et Florence nous a signalé un récent rapport de l'ARCOM qui pointait que si la place des femmes augmente dans les médias, leur temps de parole, lui, est plutôt à la baisse. 34% en 2023 contre 36% en 2022. Donc légère baisse, mais déjà aussi surtout une disproportion quand même très importante. Pourquoi on en parle au Café Libre, même si bien sûr le sujet est important? C'est aussi parce qu'il existe un outil libre dont tu souhaitais parler, sous licence, un logiciel libre, donc sous licence MIT, qui permet de mesurer ce temps de parole.
Oui, du coup, c'est un logiciel qui s'appelle INA Speech Segmenter. INA Speech Segmenter, donc. Et du coup, c'est l'outil que l'ARCOM utilise chaque année, en réalité, pour mesurer le temps de parole sur les différents médias, que ce soit audiovisuel ou radio, et qui a permis de donner, de voir qu'on avait un petit peu baissé sur la partie temps de parole, quand bien même le nombre de femmes avait progressé. Du coup, il permet de voir aussi la répartition en fonction des secteurs d'activité. On voit que, typiquement sur la politique, c'est le sujet pour lequel, pour la sixième année de suite, les femmes ont le moins de temps de parole, avec 32% d'invités, pour le coup. Et du coup, ça prend n'importe quel fichier audio en entrée. Donc, si vous enregistrez vos meetings, c'est une pratique qui se fait, vos réunions, pardon. C'est une pratique que je vois de plus en plus, pour que les personnes puissent regarder plus tard. À partir du moment où c'est du FFmpeg, l'encodeur, en entrée, vous passez ça sur ce logiciel qui est en Python et ça vous ressort des statistiques. Donc, super pratique pour avoir des données factuelles sur le temps de parole.
J'ai une petite question. Ça essaie d'identifier à une voix si la voix est d'une voix de femme ou d'homme. Donc,
absolument.
En fait, pour les gens qui ont des voix atypiques, ça peut quand même se tromper.
Oui, comme tout outil, c'est des tendances. Déjà, on ne parle que des hommes et femmes. On ne parle pas de tout ce qui est transgenre, non-binaire. Donc, on va vraiment voir un aperçu grosse maille des tendances. Cela dit, les écarts sont suffisamment criants pour que ça fasse suffisamment
ça
de travail en réalité.
Il vaut mieux avoir un chiffre approximatif que pas du tout.
Ouais, clairement.
Alors, t'as parlé d'encodage FFmpeg. Je pense que tout le monde n'est pas forcément familier du terme. Et après, j'aurai une question.
Du coup, c'est, alors je vais pas trop rentrer dans le détail, mais c'est un encodeur, du coup, et à la limite testé. Prenez le en ligne de commande, vous passez en paramètres. Je sens que je me noie là dans les détails techniques.
Je pense que c'est.
Je peux en donner deux trois peut-être.
Bah c'est l'encodage, en gros, c'est passé dans un certain format, je pense qu'on peut dire, donc des formats de vidéo, oui. D'audio.
Oui, absolument. Donc, ce qui est MP4, MP3, je ne sais pas si ça passe, mais ça doit passer.
Si, ça fait pour moi, c'est du FFmpeg. Ouais. En audio, en vidéo, ça décode, ça rencode.
Je ne sais pas quel format n'est pas en FFmpeg, en réalité, aujourd'hui.
Oh, il doit y en avoir, mais peut-être des formats propriétaires, justement. Mais comme c'est un outil libre et que ça exploite un maximum de formats, je crois que à peu près tout ce qui est à peu près libre est dedans. Et, voilà, donc,
moi, j'aurais tendance à essayer, en vrai.
En fait, c'est utilisé pratiquement par tous les sites de vidéo. Quand on upload une vidéo sur un site quelconque, même a priori même chez Google, hein, YouTube ou autre, il doit y avoir du FFmpeg derrière, et aussi sur des logiciels type PeerTube, ça permet de convertir les résolutions, les formats, de couper des morceaux, enfin bon, c'est extraordinaire. Je crois qu'un des auteurs, c'est Fabrice Bellard, qui est un grand français gourou du libre, et il doit y avoir aussi derrière des gens sûrement de Videolan.
D'accord.
Oui, okay. Possible, ouais.
Il y a une forte influence française derrière.
En Videolan, c'est qui développe le logiciel que je pense quasiment tout le monde connaît, qui est VLC, hein, ce logiciel de lecteur média, avec ce petit cône orange, effectivement, qui est un logiciel libre extrêmement connu, extrêmement utilisé. Et on les avait reçus dans Libre à vous il y a quelques temps, voilà, pour chercher dans le moteur de recherche du site. Et je précise que tu as mentionné PeerTube, qu'exceptionnellement, effectivement, comme lors du dernier au Café Libre, nous sommes sur PeerTube en ce moment, donc sans doute qu'on passe. Voilà, il y a un encodage du son sous.
Quand on a la tête à gauche, là, c'est ça, bonjour PeerTube.
Alors, je voulais te demander ce que tu as. Donc, ce que je comprends du logiciel tel que tu décris, c'est que c'est pour traiter une grande masse de données, en fait. Ça va aspirer beaucoup de données, ou c'est aussi un logiciel qu'on va pouvoir utiliser. Tu as dit réunion, mais je pense que par exemple, dans une réunion, dans un meeting politique, une petite réunion, c'est un logiciel qu'on peut utiliser pour. Et du coup, peut-être que humainement, là, pour le coup, on pourrait peut-être repréciser homme-femme. Ok.
Complètement. Bah là, par exemple, l'enregistrement de PeerTube, on peut extraire le fichier. Enfin, il y aura un fichier de toute façon technique avant de l'uploader, de le téléverser sur la plateforme. Et du coup, en script, enfin, en lançant le script Python qui est développé par
Lina peut-être plutôt si ça s'appelle Ina. Au début,
non.
Ça vient de Lina.
Oui, c'est pas Lina. Non.
Ah, c'est pas le
c'est
Lina, l'Institut national de
l'INRIA. Bah, permettra après d'avoir la statistique de est-ce que j'ai parlé un tiers du temps vu qu'on est trois, je ne sais pas. On verra, mais en tout cas ouais, ça permet de s'affranchir de tout ce qui est biais, d'avoir des données concrètes pour le coup. Moi j'aime bien.
Et je trouve intéressant parce que, bon, effectivement, la question du temps de parole des femmes et de l'équilibre des temps de parole n'est pas une question de logiciel libre, mais c'est une connexion qui concerne quand même tout le monde. Par contre, on voit, et c'est intéressant, comment des outils aussi peuvent venir répondre, et qu'il nous faut aussi ces métriques. Nous, on est assez attentifs, donc Libre à vous, on essaie d'avoir un effort actif pour avoir une participation de femmes aussi proche que celle des hommes que possible, et alors, vu qu'on s'inscrit dans un système qui est inégalitaire de fait, voilà, on fait au mieux, mais voilà, c'est aussi on mesure et on fait au mieux pour ça. Et on peut pas avancer à l'aveugle. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir ce genre d'outils. Donc aussi, si on est dans des collectifs qui veulent avoir cette vigilance, est-ce que c'est un outil qu'on peut assez facilement récupérer et installer pour son usage?
Oui, clairement. Mais en vrai, en même temps que je t'entends parler, moi, ce que j'aime bien, c'est l'outil Jitsi Meet, si on parle vraiment de visioconférence, où on a les statistiques en temps réel du temps de parole de chaque participant et participante. Et du coup, c'est un super outil d'auto-modération en temps réel, plutôt que attendre d'avoir terminé la réunion, regarder après coup, ah, on est bien, on n'est pas bien. Ça permet de voir de façon criante, ah, on est clairement...
C'est génial comme système, oui.
C'est génial.
Ça permet de voir où on en est, c'est...
Alors, je précise, Jitsi est un logiciel libre de vidéo, voilà, comme tu l'as dit, de visioconférence.
Ouais.
Et je ne connaissais pas cette fonction, très intéressant, d'accord.
Bah, elle est top. Elle marche très bien.
Donc utilisez, voilà, n'hésitez pas à vous appuyer sur les outils qui existent. Il y a des logiciels libres qui peuvent répondre à ces enjeux, et ce genre d'outils permet, voilà, de répondre à cette question importante de la mesure du temps de parole. Et je vous propose d'avancer dans nos sujets. Ah, mieux. Alors, on ne change pas complètement de thématique. On parlait de Mathilde Saliou, dans la chronique précédente, il était évoqué Mathilde Saliou, qui était intervenue à l'AG de l'April récemment pour nous proposer une conférence sur comment rendre le numérique plus inclusif. Et elle a récemment publié un article le 14 mars sur Next Impact sur la neutralité sur Wikipédia. La question du dead name des personnes trans relance le débat. Voilà, c'est le titre de l'article. Alors, les dead names ou morimons en français, ce sont les prénoms des personnes personnes trans qui ont été assignées à leur naissance, avant leur transition donc, et un prénom qu'ils ou elles ont décidé d'abandonner pour en choisir un qui correspond mieux à leur identité de genre. Et là, il y a beaucoup de débats au sein de Wikipédia, notamment autour de cette question, faut-il mentionner ce nom dans les articles Wikipédia ? Moi, je trouve ce débat très intéressant pour beaucoup de raisons, et c'est un débat compliqué, mais il pose des questions vraiment fondamentales sur comment fonctionne Wikipédia, et c'est quand même le rôle, la fonction sociale, je trouve, et politique de Wikipédia, qui est un des plus importants projets de la culture libre. Je pense même qu'on peut dire un des projets humains les plus importants, enfin, c'est de ces dernières années. Et c'est ce qui ressort dans l'article de Mathilde Sellou. Qu'est-ce que la neutralité? Est-ce qu'une telle encyclopédie doit assumer de prendre compte des évolutions de la société, de son impact, qui est intrinsèquement politique, je trouve, l'objet politique qu'est Wikipédia. Voilà. Alors, je ne sais pas ce que ce débat vous inspire.
Tu veux commencer, Florence, ou j'y vais?
Vas-y.
Dans les arguments de Wikipédia, justement, c'était qu'ils voulaient être neutres et ne pas rentrer dans des problématiques militantes. Je pense que c'est facile d'avoir cette posture quand on n'est pas dans une posture, enfin quand on est déjà parmi les dominants pour le coup. Et ce que j'ai trouvé assez intéressant, c'est que dans la démarche, ils parlent un peu de leur prise de décision. Comment est-ce qu'ils décident ensemble d'une façon de faire par rapport à une autre? Et du coup, il y a une espèce de questionnaire, un sondage qui a tourné visiblement sur ça, pour que au moins les personnes concernées puissent s'exprimer. Donc il y a les problématiques de vie privée, le fait que les personnes trans, en tout cas celles qui avaient interrogées, ne souhaitaient pas faire apparaître leur DNDM parce que c'est rattaché à trop de souffrances et qu'on devrait respecter ça, sachant que dans les règles de la fondation, c'est ne pas nuire aux personnes dont on dresse les autobiographies. Et du coup, une des personnes, par rapport à cette façon de prendre la vie et de prendre des décisions à travers des sondages, disait que sur ce sondage, il y avait eu énormément d'avis polarisés, pour le coup. Et il y a eu deux fois seulement où c'était très polarisé, c'était sur ce sondage et sur l'écriture inclusive. Et du coup, moi, ce que je remarque en tant que... femme, en tout cas, pour le coup, c'est que c'est sur des sujets où la majorité des contributeurs sont des contributeurs hommes, pour le coup, et du coup, sur ces sondages, les sondages qui posent problème, entre guillemets, c'est quand ça concerne des minorités de genre. Donc c'est là où on voit qu'on a plus de mal, en réalité, à changer nos habitudes et nos statu quo et à prendre en compte les problématiques d'une partie de la population dans laquelle on se reconnaît pas, quoi. Après, moi, je ne suis pas une personne trans. Ce que je sais, c'est que à partir du moment où ça génère de la souffrance, pour moi, il n'y a pas de débat. Je crois qu'une des décisions, c'était de se dire que si la personne n'avait pas encore transitionné et qu'elle avait déjà une page Wikipédia, qu'on faisait une mention du dead name quelque part, mais pas forcément en avant. Après, c'est vrai que cette question, elle n'est pas évidente, mais ma préconisation, ce serait quand même de se mettre à la place des personnes qui sont concernées. Ouais.
Je crois qu'un des aspects de la décision, alors je ne suis pas non plus dans les détails ce qui se passe, mais en fait, ça reste ouvert, donc on peut aller regarder et jeter un œil. C'est la question, effectivement, si la personne était connue et donc avait une fiche Wikipédia avant, et donc il y a un intérêt quelque part. Et l'exemple pris notamment par Mathilde Sayou, c'était les sœurs Wachowski qui ont produit notamment des films très connus comme Matrix sous leur en tant qu'hommes, et elles ont transitionné par la suite. Et effectivement, là, la question paraît pas forcément plus tranchée, mais des éléments matériels qui permettent de justifier peut-être la présence de ce nom, sous quel nom a été publiée une œuvre. Voilà, je crois qu'il y avait, ça fait partie des éléments en tout cas. Pierre ?
Oui, j'ai pas. Merci pour vos retours, parce que j'ai essayé de regarder un petit peu le sujet, effectivement, j'ai vu passer cette actu, et le sujet est extrêmement complexe, effectivement, moi j'ai pas eu le temps de creuser autant que vous, parce qu'en fait Wikipédia, le sujet des bios Wikipédia, déjà c'est un sujet très sensible, parce que on veut éviter que les personnes citées dans les bios mettent n'importe quoi,
fassent leur auto-promo. Je crois que dans les règles de Wikipédia, on ne peut pas participer à l'écriture de sa propre auto-biographie.
Alors on peut, mais on marche sur des œufs, parce qu'évidemment, il s'agit pas de faire son propre panégyrique. Donc déjà ça c'est un souci. Après il y a le côté histoire. Tu veux pas forcément. Il y a une sorte de côté mémoire de Wikipédia qu'on souhaite pas forcément vouloir altérer. Et effectivement il y a une demande très forte dans la communauté trans sur le dead name. Si ça s'appelle dead name, c'est pas pour rien. Ça évoque le fait qu'on veut faire disparaître son ancienne identité. Et ça c'est à entendre. Donc effectivement, et les règles de Wikipédia en plus pour éviter les abus d'un site qui est extrêmement visible et influent, effectivement je crois que c'est en matière de libre, c'est le site internet le plus visible, parce que en audience en France en tout cas, il n'y a pas de site libre plus visible que Wikipédia. Tous les autres, donc ils ont une importance majeure en termes de défense des, même au niveau législation, des intérêts de la culture libre. Et donc peut-être, je sais pas, je suis perplexe parce que je vois pas quelle peut être la solution la meilleure. Donc tant mieux si la communauté Wikipédia arrive à trouver une solution. Peut-être qu'on pourrait imaginer, je sais pas, que suivant les pages et suivant les personnes concernées, on cite ou pas le dead name, parce que j'imagine qu'il n'y a pas non plus forcément une homogénéité totale des personnes trans en la matière. Mais comme c'est un sujet très délicat pour tout le monde, j'ai pas d'avis très tranché, j'avoue.
Et je pense que c'est ce qu'il faut aussi, c'est accepter qu'on, c'est pas à nous d'avoir des réponses, d'autant qu'aucun de nous ici n'est concerné par cette question. Mais ce qui est important, et en fait, c'est aussi la réponse, à mon sens, du libre de manière générale, c'est pas tant forcément dans les solutions retenues, c'est comment est-ce qu'on atteint ces solutions. Alors, je vous invite à réécouter, je suis allé chercher, donc c'est l'émission 21, donc qui date de 2019 déjà, mais ça a pas changé. On avait reçu les personnes de Wikimedia, donc qui gèrent Wikipédia, et qui expliquent aussi comment fonctionnent les prises de décision, la création d'articles, qui peut contribuer, comment on y contribue. Et en fait, c'est quand on met des bases déjà transparentes et à peu près claires sur comment on prend des décisions, c'est ça aussi qui rend les décisions acceptables. Et puis les décisions peuvent évoluer, on peut changer, et c'est tout en acceptant un biais que tu as très bien mentionné, c'est qu'effectivement les contributeurs, j'ai pas le chiffre en tête, mais j'ai vu passer, je l'ai pas noté, j'aurais dû. C'est principalement des hommes qui contribuent, et ça c'est le fruit, parce qu'on est dans une société patriarcale, que c'est plutôt les hommes qui sont éduqués à utiliser, être à l'aise avec l'informatique, etc. Donc c'est ça a des impacts aussi sur qui contribue et comment on atteint les décisions. Mais c'est clair que c'est une complexité énorme. Et c'est, je trouve que c'est intéressant aussi dans cette question de Wikipédia, qu'est-ce que la neutralité? Et est-ce que ça doit être une encyclopédie factuelle? Et c'est quoi le factuel? Ça reste politique? Ou est-ce qu'il faut qu'il y ait est-ce que Wikipédia a un rôle, participer à l'émancipation aussi quelque part? Et donc d'être vecteur de progrès social, quoi. Mais comment faire? Ça, c'est vrai que c'est des questions complexes. On avance ou vous voulez juste un dernier mot?
En tout cas, sur la neutralité, pour moi, dans la mesure où on choisit ou pas de mettre une information. Voilà.
Peut-être un mot aussi sur l'égalité des temps de parole. Enfin, Wikipédia cherche à rééquilibrer. Il y a aussi un problème sur Wikipédia au niveau des bios. Il y a plus de bios d'hommes célèbres que de femmes célèbres. Et Wikipédia cherche à...
Alors pas Wikipédia.
Wikimedia, excuse-moi.
Et je l'avais mis dans mes notes. Et justement, avant d'avancer, on va en parler. Je vais te laisser Florence en parler. Je pense que tu parles des 100 pages.
Ah, pas forcément.
Je pense qu'on peut évoquer les 100 pages. On l'a déjà évoqué dans l'émission, mais là, je pense que c'est intéressant aussi parce que ça...
Parce que pour moi, ma connaissance, justement, ils sont pas trop... Alors peut-être qu'ils sont pas contre, il n'y a pas eu d'effort, mais justement, c'est une association, les 100 pages, du coup, qui va rédiger des biographies sur les femmes pour augmenter la visibilité et les contributions des femmes dans la vie, dans la société. Et il y a vraiment des écritures, réécritures entre clans, en fait. Du coup, c'est pas si évident.
J'essaie
de réécrire plusieurs fois les mêmes articles. Est-ce que c'est légitime? Est-ce que ça l'est pas? Est-ce que quand on est femme de quelqu'un, là, on aura le droit d'avoir sa propre page Wikipédia? Alors que sinon, il faut apporter plus de preuves. Et là, les biais sexistes de la société n'épargnent pas les contributeurs et les décideurs, donc j'insiste sur l'heure, de Wikipédia. Mais je vous invite vraiment à rejoindre l'association, c'est complètement ouvert. Il y a des ateliers régulièrement d'une demi-journée, il me semble, pour justement apprendre à contribuer sur Wikipédia. On apprend plein de choses, déjà sur des histoires qui sont méconnues. Et d'un point de vue technique, où je ne sais pas si c'est un frein, mais c'est possible que ça en soit un. Après, je pense que les femmes, là, je suis vraiment la grosse féministe aujourd'hui, mais ont moins de temps personnel. En réalité, elles ont deux fois plus de temps sur les tâches ménagères. Elles s'occupent aussi de leurs proches. Et du coup, forcément, c'est moins de temps pour... contribuer sur autre chose en particulier.
C'est pas ça qu'on appellerait un problème systémique.
Si, ouais. Bah, en plus, il y a plein de facteurs, oui.
A fortiori, Wikipédia ayant cherché à se protéger avec des procédures assez complexes, il est extrêmement difficile. Enfin, c'est très chronophage. C'est pas comme il y a 20 ans, il suffit pas d'aller modifier une page et ça passe. On peut se faire retoquer. Et il y a même d'ailleurs des gens qui passent leur vie à écrémer Wikipédia de ce qu'ils estiment ne pas être de valeur encyclopédique. Donc, il y a eu l'été dernier des associations de Linuxiens qui ont vu leur page potentiellement disparaître et il y a quelqu'un qui voulait dégager toute une série de pages de logiciels libres.
Donc c'est très
difficile d'avoir des bio nouvelles sur Wikipédia parce qu'il y en a même pas mal qui sont détruites au fil du temps.
Tout à fait. Et ça, je trouve aussi intéressant les 100 pages. Alors, leur objet de leur. Mais on peut s'organiser aussi pour aller contribuer à Wikipédia. C'est pas. Est-ce que ça doit venir de Wikipédia ou est-ce que d'autres associations peuvent se regrouper, s'organiser pour contribuer à Wikipédia? Moi, je vois pas un problème, en fait, de passer par cela. Et j'invite tout le monde aussi à aller. On peut contribuer à Wikipédia, c'est ouvert peut-être de le rappeler, et notamment aux femmes, si elles ont le temps, notamment, effectivement. Mais ça peut faciliter, effectivement, de passer par des associations comme Les 100 Pages, qu'on vous invite chaudement à soutenir et à rejoindre si vous le pouvez. Avant d'avancer, je pense qu'on peut faire on va s'offrir une petite pause musicale. Nous allons écouter, si je retrouve dans mes fichiers, nous allons écouter Storm Dance par Kylie Moss. On se retrouve juste après dans Cause Commune, la voix des possibles. Nous venons d'écouter Storm Dance par Kaylee Moss, disponible sous licence libre Creative Commons, attribution CC BY.
Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavoue.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune.
Voilà de retour au Café Libre. Je suis Étienne Gonu de l'April et nous discutons des actualités du Libre avec Florence et Pierre. N'hésitez pas à participer à notre conversation au 09 72 51 55 46 ou sur le salon web dédié à l'émission sur le site causecommune.fm, bouton de chat. Et vous pouvez aussi nous suivre exceptionnellement via la chaîne Peertube de l'émission, dont je pense vous pourrez trouver le lien sur le site causecommune.fm. Alors, le sujet suivant que je vous propose d'aborder est la question de l'audience devant le Conseil d'État contre la délibération de la CNIL pour autoriser l'hébergement chez Microsoft pour le Health Data Hub. Voilà, donc sujet long dans le titre, mais qu'on avait déjà en fait évoqué. Qu'on avait évoqué notamment dans le Café Libre, au dernier Café Libre, le 20 février, cette délibération de la CNIL qui autorise donc l'hébergement chez Microsoft pour ce Health Data Hub, qui est une plateforme destinée à centraliser des données de santé pour faire de la recherche dessus. Alors pourquoi évoquer à nouveau ce sujet? Parce qu'un groupement d'entreprises et d'associations ont saisi le Conseil d'État contre ce projet, dit EMC2, et l'audience a eu lieu la semaine dernière, et là on attend le délibéré qui devrait être arrivé dans, je pense, les jours à venir. Alors, pas forcément revenir dans les grandes longueurs sur ce débat qui a déjà eu lieu, mais je crois que ni Florence ni Pierre n'y avaient participé. Donc, si vous avez des choses à dire sur ce sujet, au-delà avant même le recours, enfin l'audience devant le Conseil d'État sur cette délibération de la CNIL, sentez-vous bien sûr libre de le faire. Mais je trouve déjà intéressant de montrer de rappeler que le recours juridique reste une modalité d'action face à des choses qu'on va considérer comme étant problématiques. Et voilà, donc je ne sais pas si vous avez des choses à dire sur déjà ce projet, et puis sur cette audience, on attend le résultat assez impatiemment.
Alors, c'était assez technique de ce que j'ai vu.
Oui, c'est un sujet qui est technique. Ouais,
et alors, j'ai vu l'avis de la CNIL, il était mi-figue, mi-raisin, c'est-à-dire c'était assez bizarre. La CNIL n'était pas vraiment pour, mais elle disait qu'elle ne pouvait pas être vraiment contre non plus. Enfin...
Je pense qu'elle regrettait, ça c'est peut-être discutable, mais elle trouvait que le projet était pas une bonne idée, c'est mon interprétation, mais elle manquait de base légale, en fait, pour vraiment le refuser entièrement. Puis après, c'est très politique aussi, tout ça.
C'était un peu humiliant aussi pour l'écosystème français, parce que la CNIL disait en gros, mettre ça chez Microsoft, c'est pas top, mais on n'a pas l'équivalent, il n'y a pas de remplacement. Donc il y a eu une grosse discussion là-dessus, parce que en fait c'est toujours le même sujet, c'est que les gros fournisseurs de cloud type Microsoft apportent des facilités. Être souverain, c'est un effort, c'est-à-dire que oui, si on veut pas prendre la solution qui semble la plus simple, on va devoir faire un effort pour. On n'est jamais souverain complètement gratuitement. Enfin, ça prend un effort de travail, d'argent, de temps à y passer. Ça dépend, mais ça peut être aussi, on peut se retrouver aussi coincé sur des plateformes, comme on le voit, enfin on en parlera peut-être plutôt à la fin, mais comme on le voit avec les affaires de licence Broadcom ou d'autres cas, comme on l'a vu avec Oracle aussi, c'est-à-dire que ça a l'air facile, mais à un moment quand le fournisseur dit écoutez, je multiplie mes tarifs par 10, on peut pleurer après, voilà. Donc c'est la question de la souveraineté et alors accessoirement il y a eu un document interne qui a été libéré par l'association de Xavier Bierne qui a été évoqué dans une émission précédente, voilà, à laquelle participe Xavier Bierne, qui a obtenu sur la demande d'un journaliste, Émile Marzolf, obtenu le document de comparaison des différentes solutions. Qui a été largement anonymisé en fait pour éviter qu'il y ait des réponses de nature confidentielle business qui soient exposées. Manque de peau, il suffisait d'enlever les pavés noirs dans le document pour voir les critères du document initial. Donc ça, tout le monde s'est rué dessus pour voir un petit peu quels étaient les les critères qui avaient été pris en compte en fait et les réponses des fournisseurs. Et en fait après les sociétés alors ça j'ai vu passer ça, c'est tout frais, j'ai vu passer ça ce matin, les sociétés concernées par le enfin le flou, qui s'estiment lésées par la décision veulent monter jusqu'au niveau européen, donc elles suivent les différents niveaux de procédure en justice pour arriver jusqu'au niveau européen pour défendre notre souveraineté, voilà.
Florence. Que dire de plus? ouais, enfin, moi je trouve ça, je sais pas, que il y a ce côté, oui, on n'a pas trouvé mieux pour le coup. Du coup, c'est pendant 3 ans que on laisse ces données de santé où aujourd'hui on a quand même régulièrement des fuites de données sur beaucoup d'organismes d'État. Donc je sais pas, c'est peut-être libre maintenant les données. Mais oui, je trouve ça bien en tout cas de savoir qu'il y a des recours qui sont possibles pour qu'on se donne vraiment les moyens. Ce que j'ai bien aimé aussi et que j'avais pas forcément en tête, c'est que à la base c'était Microsoft qui était utilisé sans avoir fait d'appel d'offres, ce qu'on est censé faire. Et du coup, on voit clairement le côté pied dans la porte. J'ai pas vu la partie KVRD à quel point du coup ça a vraiment été mis en balance les différentes solutions d'hébergement des données. Mais là, ça va quand même être un giga hub de données sensibles. Et je pense que on devrait montrer l'exemple et respecter la confiance de nos concitoyens et concitoyennes pour vraiment proposer une solution qui tienne la route, quoi. Maintenant, je ne sais pas si ça va marcher. Je ne sais pas quelle est l'urgence non plus de ce projet.
C'est du stockage de données, de ce que j'ai compris, à destination en recherche, pour faire de la recherche sur de grandes quantités de données, donc anonymisées normalement, mais pouvoir faire de la recherche, je sais pas, épidémiologique, enfin, tout un tas de choses. D'avoir une sorte d'entrepôt de données, comme on disait autrefois, pour permettre des activités de recherche pour faire avancer la science, quoi, voilà, tout simplement.
Je trouve cette idée de ce temporalité, de cette urgence, elle est peut-être aussi, ça fait partie de ces germes du mal, un petit peu de ce projet, c'est-à-dire qu'il y a eu une commande politique, il fallait cette grande plateforme, etc., qui permettait de faire des super trucs, un truc très centralisé. Donc déjà dans l'infrastructure aussi, dans les choix infrastructurels, il y avait des choses qui étaient posées. Et en fait, la manière dont la commande politique et dans l'urgence dans laquelle cette commande politique a été faite, parce que est-ce qu'il y avait urgence à avoir une plateforme, ça c'est peut-être un autre sujet encore, enfin, qui est complètement lié, mais faisait que fondamentalement, en fait, au moment de sa manière dont ça a été commandé, peut-être effectivement que Microsoft était vraiment en mesure. Mais ça veut dire qu'ils n'ont pas intégré la question de comment faire aussi sur des bases à peu près quand même souveraines. Alors idéalement sur du libre, mais au moins déjà sur des choses qui ne soient pas dépendants d'un droit moins 10 ans sur les données personnelles. Voilà, donc c'est aussi intégré, et je pense que tu l'as très bien dit, sur on est dépendant des politiques tarifaires, etc. Il y a eu un rapport parlementaire, alors ce qui était en publié en janvier, qui parle d'un piège Microsoft dans lequel on pourrait tomber exactement pour ces raisons-là, c'est-à-dire que on crée de l'adhérence et puis bah, il y a des choix, des décisions commerciales qui sont prises par l'entreprise éditrice, donc ce cas-là de Microsoft, soit de basculer sur du cloud exclusivement, soit d'augmenter ses prix. Ben, comment on fait? Et donc là, il faut arrêter d'être passif, quoi. Et il faut un peu, c'est de l'investissement, c'est de la décision politique, un peu de long terme, un peu de réflexion. Pour nous, ce qu'on appelle une priorité à l'UCRI, hein, ce qu'on appelle de nos voeux, mais au moins déjà arrêter d'être passif vis-à-vis de ces situations, quoi.
Et il n'y a pas que ça aussi. Enfin, au-delà de, il y a aussi les egress fees qui fait que quand on sort les données et qu'on veut changer de provider, ça coûte très très cher pour le coup. Et du coup, ça aussi, c'est un lock-in auquel on se soumet en rejoignant Microsoft, en confiant nos données à Microsoft.
Lock-in, qui est l'expression anglaise pour dire enfermement. Voilà. Ouais. On est coincé dedans.
Je sais pas à quel stade ça en est au niveau législatif, mais c'est peut-être bien dans la loi SREN d'ailleurs, il y a une disposition pour effectivement interdire les facturations des transferts de données sortantes.
C'est un projet.
Et Google, je crois que c'est Google l'a déjà mis en œuvre d'ailleurs, ils ont déjà annulé ils ont fait une annonce il y a quelques mois.
Tu peux repréciser du coup cette...
Donc en fait, oui, ce que disait Florence, c'est que quand tu veux transférer tes données parce que tu veux changer de fournisseur, évidemment, le transfert des données étant payant en entrée comme en sortie, tu vas payer pour faire sortir tes données, si tu n'en as pas de copie ailleurs. Donc ça a été considéré comme une forme d'entrave à la concurrence, hein, pas au sens littéral, mais quasi littéral. Donc la loi SREN, qui est donc en train d'être finalisée, a une disposition là-dessus pour interdire ce genre de facturation, pour justement éviter, réduire en tout cas, l'effet de verrouillage des fournisseurs.
Ok, à suivre donc. Alors on va passer au sujet suivant, mais qui est en fait la stricte continuité. On change pas tant que ça, parce que c'est il y a un dénominateur commun. La Commission européenne a été prise en flag de non-respect de ses propres règles du fait de son usage des services de Microsoft 365. Plus précisément, l'EDS, qui est le European Data Protection Supervisor, et qui est en charge de s'assurer du respect du règlement général sur les données personnelles par les institutions européennes. Et elle a donné jusqu'au 9 décembre 2024 à la Commission européenne pour suspendre tous les flux de données vers Microsoft, y compris de ses sociétés affiliées et de ses sous-traitants non européens, résultant de l'utilisation de Microsoft 365. Donc voilà, que dire finalement de la commission qui finalement en plus se veut quand même assez exemplaire et puis très insistante sur le fait d'une juste application du RGPD. Et bah voilà, même au niveau de la Commission européenne, on est dans ces situations où, en fait, qui, je pense, l'héritage d'un passif assez lourd et de lock-in, voilà, d'adhérence vis-à-vis de Microsoft.
C'est difficile de sortir de la drogue.
Ouais. Donc là, en fait, finalement, on pourrait dresser exactement le même constat qu'on a fait sur la question vis-à-vis du Health Data Hub. En France, on a une situation très similaire. Là, c'est le ministère du Travail qui est une dérogation par rapport à ce qu'on appelle la directive Cloud au Centre pour continuer à utiliser les solutions Microsoft, parce que faute d'alternative, c'est toujours cette question de l'alternative, mais enfin elle va pas venir nulle part non plus, cette alternative. D'ailleurs, Actu April, j'en profite, ça c'est une question, on a fait une demande CADA, qui sont ces demandes d'accès aux documents administratifs, mentionnées notamment ce qu'aide à faire le site Madada, qu'a fondé Xavier Bern. On a demandé pour avoir des infos sur les groupes de travaux. Visiblement, il y a des groupes de travaux, en tout cas, il y a des études ou des travaux, ou des échanges menés au sein de différents ministères, notamment avec la DINUM, qui est la Direction Interministérielle du Numérique, avec l'ANSI, qui est l'Agence Nationale des Systèmes de Sécurité de l'Information, avec visiblement la Direction du Numérique du ministère du Travail, qui doit réfléchir, au moins avoir une vision sur les alternatives qui existent. Alors on ne sait pas, et c'est ce qui permettrait de justifier finalement la continuité d'utiliser Microsoft. Donc voilà, on essaie de faire un peu de lumière là-dessus pour savoir s'il y a des études sérieuses qui sont menées, et dans quel ordre, voilà, dans quelle mesure ces études sont menées.
Petite précision sur la commission. Concernant Microsoft, j'étais assez étonnée en réalité que, surtout après que la France accepte de confier ses données de santé à Microsoft, du coup ça fait comme un désaveu. Et en lisant dans les petites lignes sur ma compréhension, enfin je sais pas ce que vous en avez pensé vous, mais j'ai l'impression que c'est surtout sur, enfin que ça peut facilement façon de parler, hein, mais se corriger, et que c'était surtout sur des sujets de forme, que c'était pas tant Microsoft en soi qui posait problème, mais le fait que c'est pas été cadré sur quelles données personnelles étaient confiées à Microsoft. Comment c'était géré en termes de règles de sécurité, etc. Du coup, je suis assez curieuse de la suite pour voir si c'était histoire de montrer que quand même il y avait une attention à ça et que ça va être assez vite régularisé, ou si l'intention c'était vraiment de se dire Microsoft parce que c'est hébergé aux États-Unis ou américain, ça pose problème. Donc quand même à suivre.
Oui, parce qu'il y a des débats en France sur comment ce qu'on appelle SecNumPlus, qui est une sorte de certification, et qui semble dire qu'on peut utiliser Microsoft, mais avec des conditions, ça c'est en France, mais avec des conditions très strictes d'hébergement, etc. Donc ça, en plus, ça peut faire mal. Donc, à voir comment, effectivement, ça se traduit au niveau européen. Et puis, alors, on rappelle l'EDS que j'ai mentionné, qui est cette entité est censée être indépendante par rapport à la Commission. Je pense que je l'ai pas dit, mais c'est effectivement important, à voir à quel sérieux va être pris. Et je pense qu'il y avait un peu des deux, c'est-à-dire qu'il y avait une partie parce que ça partait aux États-Unis, puis c'était vraiment ce que tu disais, effectivement, ce cadrage. Enfin, j'avais après cette lecture aussi, Pierre.
Sur SecNumCloud, c'est une sorte de... un peu plus qu'un label marketing. C'est un label marketing parce que c'est un argument de vente, mais c'est aussi une obligation d'audit et de certification des systèmes au niveau sécurité. Et en fait, n'importe quelle entreprise peut... Enfin, à peu près, n'importe quelle entreprise, même américaine, peut répondre à cette obligation. Ça coûte très cher pour avoir la certification, évidemment. Donc, il faut avoir une certaine masse critique pour que ça ait un intérêt pour tes clients. Donc un petit hébergeur n'aura pas les moyens de respecter cette obligation. Donc là encore, ça favorise plutôt les GAFAM, puis qui pour eux c'est 3 cacahuètes à dépenser. Donc c'est pas forcément ça peut être contre-productif, ça peut ne pas forcément avoir l'effet souhaité. Par ailleurs, oui, il y a eu quand même des engagements, de ce que j'ai compris, du projet EMC2 qui ont été cités dans les différents débats à terme. Alors peut-être pas 2024, mais 2025, 6, 7, on sait pas trop. Pour réimporter ça sur du cloud plus souverain.
Entendu. Je vais me corriger, parce que Fred me fait remarquer une erreur de ma part. Xavier Baird n'a pas fondé Madada, il y a été embauché pour y travailler, donc ce n'est pas la même chose. Et je veux citer ce qu'on a parlé finalement sur le projet EMC2 et donc le ElsaTub. Je vais comme citer le travail d'une association qui s'appelle Interop, qui avait beaucoup milité au moment où on avait entendu parler au tout début de ce projet ElsaTub pour faire valoir une autre approche basée notamment sur du logiciel libre, qui propose d'ailleurs des services, il me semble, pour les professionnels de santé avec des logiciels libres. Donc je tenais aussi à saluer leur travail. Je mettrai la référence sur notre site. Et je vous propose d'avancer si vous voulez bien. Alors, nouveau sujet, même si Microsoft est toujours dans les parages, une tribune de l'April alerte sur TechSoup, un instrument d'influence des big tech américains. Alors, pour résumer, je vais essayer, à nouveau un sujet un peu assez complexe, mais je pense qu'on peut quand même l'évoquer, hein. TechSoup se présente comme un réseau international sans but lucratif d'organisations non gouvernementales qui fournit un soutien technique et des outils technologiques à d'autres ONG. Sur le papier, c'est très bien. Par contre, quand on commence à regarder la liste des partenaires et les fonctionnements, parmi les partenaires, je peux citer Microsoft, Amazon ou encore Cisco. Donc ce côté de vitrine, peut-être aussi qui peut permettre de l'optimisation fiscale, on peut le penser. Voilà, en tout cas, des questions se posent. Le problème étant que cette puissante machine TechSoup contribue en France à travers le programme Solidatech sur lequel elle s'appuie. Ça c'est français, Solidatech. Elle contribue à consolider la place d'un numérique dominant avec un code source fermé et donc à rendre une souveraineté qu'on a déjà mentionnée impossible en France au niveau des associations. Ne serait-ce qu'en proposant aux associations bénéficiaires des licences pour des logiciels privateurs à des prix cassés et consolide donc la situation de dépendance aux GAFAM, donc Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft, et souvent au détriment des usagers de ces associations, notamment en ce qui concerne les données personnelles. Pour donner un chiffre, Solidatech occupe une place très importante en France, notamment ils ont 40 000 organisations bénéficiaires en décembre 2023. Voilà, donc le but de Solidatech propose un catalogue de logiciels au bénéfice d'associations à des prix battant toute concurrence, et ils proposent notamment des licences Microsoft et d'autres. C'est ça qui nous pose problème. Donc je vous invite à découvrir cette tribune, des propositions qui visent à avoir plus de transparence et in fine à inscrire une véritable priorité logiciel libre et d'accompagnement pour les associations qui ont des vrais besoins informatiques et qui peuvent parfois, ça peut être leur souci principal, les outils qu'ils utilisent, mais y a quand même des enjeux qui vont les traverser, et notamment celle de la donnée personnelle de leurs usagers. Alors, je ne sais pas si c'est une tribune dans laquelle vous avez eu le temps de vous plonger, et un sujet que vous avez pu un peu étudier, est-ce que ça vous évoque déjà cette question ?
Moi, je me sens toujours tiraillée sur ça, parce que déjà, il y a pas mal de... Enfin, pas mal. Alors, c'est pas le cas de Microsoft, visiblement, mais des licences gratuites pour les associations, notamment sur la suite Google, il me semble.
C'est possible, oui.
Slack aussi. Je connaissais pas Solidatech, pour le coup, avant de le lire. Et déjà, avec le libre, parfois, cette vision du moins bien, on va dire, parce que c'est gratuit, pour le coup, et que ça traite pas de données personnelles. Je me dis, et souvent il y a moins de fonctionnalités, enfin souvent, je sais pas, je vais pas mouiller, mais en tout cas par rapport, c'est pas les mêmes fonctionnalités, on va dire, ça peut créer un fossé entre les deux. Et en même temps, je trouve ça super malin, effectivement, de faire ces propositions financières, parce que clairement, en termes de domination du marché, on couvre tout, les entreprises, les associations, les écoles. Du coup, je me dis, effectivement, déjà de donner une valeur marchande. Qu'est-ce que ça génère en termes d'achat derrière, pour que ce soit à peu près honnête, peut-être valoriser les données personnelles qui circulent et de proposer des alternatives libres et de les rendre visibles, ça peut aider. Et en même temps, c'est vrai que ça ne me paraît pas suffisant. Je me dis qu'il faudrait surtout plus de subventions pour le libre pour aider ça, ou rendre obligatoire dans les administrations, je ne sais pas.
Pour rebondir, juste pour reclarifier en fait ce que tu as évoqué des propositions, et c'est pour donner peut-être un peu de... Parce que le but, c'est pas d'empêcher les associations de fonctionner. Oui. Il y a différents niveaux. C'est effectivement la Solidatech, par exemple, bénéficie d'un agrément d'utilité sociale qui donne des bénéfices, notamment en termes d'avantages fiscaux. Donc ça, c'est des leviers, en fait. Et c'est ce genre d'outils comme Solidatech, du coup, devient un levier pour pousser vers une certaine informatique, alors qu'on pourrait imaginer des manières d'en faire des leviers, au contraire, pour bénéficier et pousser une informatique libre au bénéfice de tout le monde, avoir plus de transparence sur les tarifs, parce qu'effectivement c'est moins cher, mais où est-ce que le coût, qu'est-ce que représente finalement cette part de coût restant sur les licences. Puis après, c'est gratuit à un moment X. On reste, une fois qu'on est captif, on en revient aux questions de ce piège Microsoft. Dans quelques années, qu'est-ce qu'il va en être? Et puis d'afficher des solutions libres. On peut dire, OK, là, vous avez besoin là tout de suite, vous êtes sur Microsoft. Pas vous obliger à passer du jour au lendemain à changer. Microsoft ou autre, hein, d'ailleurs, c'est pas. Mais il y a des solutions libres et alternatives. Encore faut-il le savoir, parce qu'on n'a pas toujours le temps d'aller regarder ce qui existe d'autre. Voilà.
C'est ce que j'allais dire. En fait, j'ai pas regardé les détails de l'initiative TechSop, mais de ce que je comprends, il n'y a pas de solution libre qui sont proposées dans. C'est uniquement du GAFAM, en fait. Après, c'est du système première dose gratuite. Voilà, c'est.
Je maîtrise pas assez le sujet, notamment sur TechSoup, pour te répondre par l'affirmative, mais oui.
Faudrait peut-être, diluer un peu la chose en mettant une offre libre là-dedans, ou sinon, si le truc a été monté dans un but commercial, enfin, ça semble, tel que tu le présentes, ça semble effectivement avoir été monté dans un but d'entrisme commercial. C'est des méthodes classiques pour diffuser de la technologie et augmenter ton adoption, hein. Ça, c'est. Donc on sait comment ça marche et il faut trouver des fournisseurs plus au moins des plateformes plus indépendantes, enfin qui proposent au moins à côté proposent au moins des solutions libres. C'est la moindre des choses. Et après peut-être même que des solutions libres s'il faut en arriver là. Enfin, d'ailleurs c'est le cas de certaines initiatives. Souvent il y a un cloisonnement entre les deux. Mais ça a tendance à mon point de vue personnel, c'est que les GAFAM ne seraient pas là ou plus là s'il n'y avait pas de libre. Parce que macOS tourne sur du libre. Microsoft Azure, c'est essentiellement du libre, sinon c'était invendable. Google, ça tourne sur du libre. Facebook, ça tourne sur du libre. Amazon, ça tourne sur du libre.
Android a été basé sur. Voilà, non mais c'est.
En fait.
Pas l'informatique moderne sans logiciel libre.
Voilà, donc après, on peut essayer de monétiser des solutions par là-dessus, mais c'est. Donc on peut réintroduire un effet de lock-in au niveau supérieur, mais c'est. C'est toujours la même problématique décalée d'un cran, en fait.
Peut-être j'aimerais bien avoir votre avis, votre regard. Alors, je vais le citer, parce que c'est Laurent Costi dont on a étudié la chronique en début d'émission et qui a été, on va dire, le principal rédacteur de cette chronique, parce que de par ses expériences professionnelles et ses engagements militants, il a une très bonne lecture des enjeux au niveau des associations. Il a conduit notamment le groupe Libre Association au sein de l'April pour promouvoir les logiciels libres auprès des associations. Je vais en profiter pour citer Framasoft également, qui bien sûr fait un travail phénoménal en proposant des outils à travers différents collectifs, notamment les chatons, mais aussi également un projet Emancipasso, bref. Fermeture de la parenthèse. Et une des recommandations que Laurent a envisagées et que je trouve intéressante, c'est de flécher une partie des amendes européennes qui sanctionnent ce qu'on appelle les big tech, voilà, les GAFAM, vers des structures qui, au contraire, vont réellement contribuer au bien commun. Parce qu'effectivement, les Google, etc., ont d'énormes moyens, de capacité de financer des outils pour que ce soit des outils très alléchants quelque part et très performants sur certains besoins au détriment d'autres choses. Mais en fait, ce qu'il faut, c'est aussi investir dans les communs informationnels, financièrement par de la ressource humaine, etc. Et donc, peut-être que ce fléchage peut être une manière un petit peu de rééquilibrer les choses. On en revient à la question des sous, quoi, avec l'investissement.
Oui, carrément.
On avance ?
Allez.
Alors, autre sujet qu'on avait déjà évoqué, mais il y a de l'actualité, une actualité chaude dessus et que Pierre avait commencé à évoquer. Je parle du projet de loi SREN, donc sécuriser et réguler l'espace numérique. Alors, on en avait parlé de ce projet de loi dans l'émission 189 en octobre dernier avec la Quadrature du Net, Mozilla et ActUp Paris. C'est un échange très intéressant que je vous recommande d'écouter si ce sujet vous intéresse. Alors, pour rappel, ce projet de loi, c'était très vaste, il couvrait beaucoup de choses, mais il prévoyait notamment la création d'un filtrage contre les arnaques en ligne qui a failli être une obligation de censure portée sur les épaules des navigateurs web, ainsi que l'obligation de la mise en place d'un système de vérification d'âge pour les sites pornographiques. Le gouvernement s'est fait taper sur les doigts assez vertement par la Commission européenne pour avoir marché sur les plates-bandes du droit européen. Et ce projet de loi passe aujourd'hui en commission mixte paritaire pour aboutir à une version finale du texte. Et ben, en principe respectueuse du droit européen. Donc on verra bien dans quelle mesure ils ont revu leur copie. Mais en tout cas, voilà. Donc ça passe aujourd'hui en commission mixte paritaire. On verra, je pense d'ici assez rapidement les résultats de tout ça. Donc voilà, je pense qu'on a déjà débattu là-dessus, mais si vous souhaitez porter un mot, bien sûr.
Deux mots. Alors, il y a encore des problèmes dans ce projet de loi. La commission mixte mixte paritaire aujourd'hui est à huis clos, donc.
Ah, ça, c'est un grand problème des commissions mixtes paritaires.
Oui. Oui, c'est souvent, enfin, je crois que c'est même toujours le cas, oui. En gros, de ce que j'ai compris, c'est 7 députés, 7 sénateurs, donc c'est vraiment un petit comité. Et une fois que ça sort de la commission mixte paritaire, ça doit être voté en bloc par le Sénat et l'Assemblée. C'est-à-dire que là, c'est plus le moment de discuter. En gros, si, on peut pas voter contre, on peut pas amender, donc, en gros, c'est tu le prends tel quel, sinon, tu vas te faire engueuler. On sait pas trop ce qu'il va y avoir dedans au final. Il y a quand même énormément de dispositions très problématiques qui vont subsister sur le contrôle, la vérification généralisée d'agents en ligne, potentiellement sur tous les réseaux sociaux. Pour protéger les mineurs, mais ça veut dire que pour vérifier l'âge, il faut le demander également aux majeurs. On ne sait pas connaître l'âge de quelqu'un pour ne le demander qu'à ceux qui sont en mesure d'être interdits. Donc ça pose beaucoup de problèmes. Et le rapporteur Paul Midi, par coïncidence totale, a publié hier une tribune où il repartait sur son cheval de bataille d'interdire l'anonymat en ligne. Un truc qui a déjà été retoqué en octobre-novembre. Il y a déjà eu le débat. Il a déjà eu lieu au Parlement. Donc en fait, apparemment, il essaie de lancer un rideau de fumée pour qu'on parle pas des sujets, parce que le sujet n'est plus à l'ordre du jour, ça a été complètement enlevé de cette loi, mais ça évite de parler des sujets plus embêtants qui eux subsistent dans cette loi, qui sont tout à fait liés à l'anonymat en ligne. Donc voilà, il y a un jeu médiatique là-dessus pour détourner l'attention, disons, qui est assez intéressant à observer et un peu ennuyeux.
Florence, ça t'inspire des choses?
Bah là, j'attends la suite. Ouais. On va voir, parce qu'effectivement, c'est un bras de fer régulièrement. Hein, c'est une danse, c'est toujours la même chose. contrôler, sous couvert de sécurité et de protection. Mais après, qu'est-ce qu'on en fait? Parce qu'effectivement, comme l'a dit Pierre, les données, elles se trient pas comme ça. C'est qu'on collecte tout le monde. Quand on voudra contrôler certaines choses qui aujourd'hui ne se font pas ou ne sont pas OK, on peut pas prédire aujourd'hui de qu'est-ce qui sera fait des données qui seront collectées. Ce sera trop tard. Une fois que les données sont parties, elles sont parties.
Je pense que c'est un bon exemple, ce projet de loi, comme tant d'autres, malheureusement, d'une approche très solutionniste, quoi. Utiliser les outils technologiques pour répondre à des problèmes politiques complexes. Mmh. C'était le cas de l'accès, par exemple, des mineurs aux sites pornographiques. Je pense que c'est très bien de vouloir, en fait, se poser la question de comment faire en sorte que des gamins n'accèdent pas à des contenus qui ne sont pas adaptés à leur âge. Mais est-ce que, justement, jeter comme ça des outils, des solutions en disant la technique va s'en occuper, c'est un petit peu, je pense, prendre le problème par le mauvais bout. Une problématique qui, par ailleurs, peut être complexe. Oui.
Là, c'est-à-dire, c'est de la mauvaise politique parce qu'on vend du rêve. On pose la question aux gens en leur demandant s'ils veulent qu'on évite que les mineurs accèdent à la pornographie. Mais en fait, on leur explique pas, évidemment, les implications sur la vie de tout le monde. Donc, littéralement, on vend du rêve.
Alors, je propose d'avancer. Il nous reste au maximum, on va dire, 6-7 minutes. J'avais noté... vous aviez chacun évoqué un sujet, je pense que c'était plutôt bonus, à la sortie de Scaphandre 1.0. Alors, je sais pas à quel point c'est un sujet que tu aimerais mentionner rapidement. Tu as parlé de toi de Redis qui change de licence et de Broadcom. Toi, tu pourrais en parler, mais des problématiques liées à des licences de logiciels. Et j'avais encore noté deux sujets, je ne sais pas s'il y en a un qui a arrêté votre préférence. Alors d'un côté, on a Elon Musk, encore lui, qui lance la bagarre des IA en promettant une intelligence artificielle en accès libre. Donc ça aussi, ça pose des questions. Et puis, en soi, le sujet n'est pas intéressant, mais ça permet quand même ça a fait beaucoup de bruit et ça pose quand même des questions. Hein. C'était la tribune de l'ancienne ministre Najat Vallaud-Belkacem de rationner Internet à 3 gigaoctets par semaine. Alors est-ce qu'il y a un de ces deux sujets qui vous attire plus que l'autre?
Les deux matières, donc.
Les deux matières,
c'est vrai. Vous les choisissez.
On va éviter Elon Musk. Je trouve qu'on parle trop de lui.
Je pense qu'on peut, on peut ne pas faire de pub supplémentaire à Elon Musk. Effectivement, on en dormira sans doute mieux. Eh bien, en parlant un petit peu de cette tribune, alors qui a fait couler beaucoup d'encre. Alors, c'est vrai que la proposition en soi paraît d'une banalité assez confondante, je trouve, quand on suit ces sujets, ça me paraît sursimplifier du moins quand même les problématiques. Comment vous avez vu cette tribune qui effectivement, elle a bien tourné sur les plateaux, mais bon, c'est pas n'importe qui, une ancienne ministre, une cadre du Parti Socialiste, donc effectivement, je pense qu'elle avait des entrées aussi pour faire parler d'elle.
Oui, elle jouait sur de velours parce que c'est la corde sensible côté médiatique. Il suffit de taper sur le numérique pour avoir directement être invité à la télévision. Donc elle a fait plusieurs émissions, plusieurs trucs. Enfin, il y a eu plusieurs reprises à la radio. Le débat en fait, Najat Vallaud-Belkacem s'est placée en lanceuse d'alerte, mais c'est un débat récurrent depuis 10 ans. Il y a des rapports sénatoriaux, des rapports parlementaires divers, enfin des réflexions scientifiques là-dessus. Qui paraissent, mais littéralement 3 fois par an, ça n'arrête pas. Il y a des spécialistes qui s'en occupent, et là, elle a un petit peu tout mélangé, tout un tas de sujets, le sexisme, le harcèlement, la pollution, avec une mesure simple qu'elle voudrait voir appliquer. Enfin, je pense qu'elle sait que c'est pas du tout applicable. Donc il y a eu un gros buzz. Je pense que c'est une bonne communicante. Et comme par coïncidence, on a appris aujourd'hui qu'elle était sur la shortlist pour être nommée directrice de Sciences Po. Donc il y a peut-être un rapport entre les deux. Elle a voulu se remettre un petit peu à l'avant de la scène, mais enfin bon, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais je pense qu'il faut recadrer le débat sur pour essayer de faire un petit peu la part des choses et d'avoir des approches plus circonstanciées sur les problèmes qui existent.
Florence,
moi aussi j'ai trouvé ça incongru, on va dire, la proposition. Après, j'avoue que j'ai entendu tellement d'échos un peu brutaux et violents à son encontre que c'était un peu brouillé. Et sachant, j'en parlais tout à l'heure, le peu de femmes politiques qu'on entend, il y a énormément de bêtises qui sont dites par des hommes politiques. On leur dit absolument rien, alors que c'est juste dramatique. Si on parle même de la Covid, ça a réellement généré des morts, on va dire. Donc sur ça, je suis jamais très à l'aise de trop attaquer les personnes. Par contre, sur le contenu, certes, c'était pas terrible, terrible. Du coup, si je me mets du côté positif, j'ai quand même trouvé intéressant la démarche, parce que je pense que moi, je suis quand même dans ce délire-là, entre guillemets, où je pense qu'on peut consommer moins. Et le fait de mesurer, c'est quelque chose qui peut aider. De savoir, aujourd'hui, on a ce sentiment d'infinité de tout, en fait. Et le numérique donne une abstraction très grande à tout ce qu'on consomme, alors que rien n'est gratuit. Et c'est pas parce qu'on ne le voit pas que derrière, c'est pas des data centers, c'est pas des câbles, c'est pas des océans qu'on pollue. Donc, rien n'est gratuit. Et ce côté, ayons conscience de ce qu'on regarde, sur Netflix, par exemple, ou France Télévisions. Qu'est-ce que ça génère comme pollution? Je trouve que c'est intéressant. Et pour le coup, moi, ça m'a fait me poser la question, mais au fait, combien je consomme en ce moment en giga? Et honnêtement, j'en ai aucune idée. Parce que tout est à portée de mon pouce. Et même pour nos enfants, tout ce qui est haut débit, bas débit, c'est devenu très, très abstrait. Aujourd'hui, les limites planétaires sont quand même pas si infinies que ça. Et en ça, je trouve que la question était plutôt intéressante, pour le coup, même si les solutions sont un peu hasardeuses, dans la mesure où c'est la production qui concentre la majorité de la pollution sur les considérations écologiques. Mais finalement, tout se rejoint. Si on consomme moins, on produit moins, etc., etc. Donc c'est un peu en biais là ma réponse, mais c'est parce que j'ai entendu trop de choses.
Après, je suis pas contre l'idée de sobriété quand elle est utile. C'est-à-dire qu'on sache quel est l'impact de nos actions de sobriété. Et ça peut être une question de moindre pollution, et ça peut être des questions personnelles, hein, ne pas se noyer dans des interactions inutiles sur des réseaux sociaux. Mais je pense qu'il faut essayer de comprendre. Enfin, je pense qu'on palasse trop souvent sous l'aspect environnemental des choses qui n'ont pas à l'être en fait, qui sont beaucoup plus anodines, et ça fait oublier en fait les autres enjeux. C'est-à-dire que sur les histoires de harcèlement. Qu'on réduise nos usages d'internet, pourquoi pas, pour avoir un usage raisonnable. Je pense que ça doit être une démarche personnelle, voilà. Et après, quand ça a vraiment un impact environnemental, là, on peut discuter de si c'est prouvé, en fait, si l'intérêt environnemental de réduire notre consommation est prouvé, d'accord, faisons-le. Mais c'est beaucoup plus subtil que l'image qui en est donnée. Dans des tribunes comme celle-là, parce que c'est vraiment ça qui a été mis en avant. Enfin, c'est pas ça qui a été mis en avant par l'autrice d'ailleurs. C'est ça qui est intéressant. Mais c'est une des choses qui ont beaucoup aidé la tribune à buzzer. Et je pense que c'est pas le problème principal à soulever en fait.
De la partie harcèlement, c'est ça?
Non, la partie pollution, en fait. Ça a été, les gens ont repris le truc, beaucoup de gens ont repris le truc en disant, elle a raison, il faut réduire la pollution, etc. Mais en fait, je l'ai eu l'occasion de l'expliquer par ailleurs, mais parce que j'ai beaucoup réfléchi à ces sujets, mais il y a eu un résultat ARCEP, par exemple, qui est, enfin, une reprise ARCEP, ça, je crois pas que je sais bien.
C'est l'autorité de régulation.
Voilà, de régulation des postes et télécommunications, je sais plus, voilà, quelque chose comme ça. Enfin, qui s'occupe donc notamment d'impact du numérique et qui a fait remarquer que notre box consomme la même quantité de courant à 95% près, qu'elle soit totalement inutilisée ou qu'elle soit utilisé à 100%. Donc en fait l'impact du volume de données, il est extrêmement faible. Et après évidemment ça n'empêche pas de réfléchir à nos usages. On sait qu'il faut il vaut mieux plutôt ne pas changer de matériel pour un oui ou pour un non, c'est-à-dire pas jeter des téléphones encore parfaitement utilisables ou des PC. Ça, on sait que ça a un gros impact. Réduire la quantité de données qu'on consomme, et c'est beaucoup moins évident en fait. Parce que pratiquement tout ce qui fonctionne sur Internet, ce sont des équipements qui consomment la même chose à peu de choses près, qu'on s'en serve pas ou qu'on s'en serve à fond. Avec un bémol quand même, c'est que tout ce qui est gros calcul, donc typiquement IA ou éventuellement compression vidéo, il y a un certain nombre de choses qui consomment du temps de calcul plus que du réseau et qui là, on peut avoir un peu d'impact. Donc, mais c'est des sujets assez très complexes d'ingénierie, et je trouve que c'est trop simplifié dans l'exposition médiatique qui en est faite. Donc, on se retrouve à faire des actions du type Cyber Clean Up Day, où on va nettoyer nos boîtes aux lettres de courriel, ou détruire des fichiers, et qui sont un peu à côté de la plaque en fait. Quand on voit les quantités de données économisées et qu'on sait ce qu'on peut stocker sur un disque qui consomme l'équivalent d'une ampoule électrique en fait, on voit qu'on fait beaucoup d'efforts pour des impacts extrêmement réduits.
Le temps t'en file, hein. Si, je sais pas si tu voulais réagir encore ou si c'était bon de ton côté.
Bah, je pense qu'on peut en parler pendant une semaine.
C'est
effectivement, il y a les ordres de grandeur à prendre en compte.
On en reparlera, je peux en parler des heures, comme vous pouvez.
Rappeler aussi, voilà, que le droit aussi à la connexion est un droit extrêmement important dans une société, ou que ce soit socialement ou même dans nos relations avec les administrations, on a besoin de ces connexions, donc c'est pas anodin non plus de vouloir le limiter, moi, sans réflexion assez sérieuse, quoi. En tout cas, voilà. Donc, fin de notre Au Café Libre. Grand merci à Florence Chabanois, fondatrice de la Place des Grenouilles, membre corps de TechRocks et de Duchesse France, et à Pierre Pessac, informaticien, libriste de langue d'acte et fondateur d'Ariomen.net, service de stockage de fichiers. Merci beaucoup à vous deux.
Mais j'ai arrêté l'activité stockage, hein, je précise.
D'accord. Voilà. Et ben, on corrigera dans les annonces.
Merci
beaucoup à vous deux, je vous souhaite une belle fin de journée et on va passer à notre dernier sujet sans pause musicale. Alors nous allons poursuivre avec une nouvelle pituite de Luc, une chronique rafraîchissante en beaucoup exemplaire qui éveille l'esprit et développe la libido. Aujourd'hui, Luc nous explique que l'humanité s'est surfait.
Le mois dernier, j'ai parlé de la façon dont les bombasses sont en train de se faire grand remplacer par les IA génératives. Je vais continuer dans cette veine-là parce qu'il y a de la matière. Ma conclusion était que la nature même de la bombasse, lisse et inaccessible, porte déjà une bonne part d'artificialité. Ce n'est donc pas si étonnant qu'on puisse préférer une bombasse virtuelle à une faite de silicone et d'os. On pourrait croire que les IA génératives disruptent notre réalité par tous les orifices, mais ça fait longtemps que la tendance est en marche. Les Japonais ont une grosse longueur d'avance en la matière. La déshumanisation des relations y est un business établi. On peut par exemple louer des amis ou de la famille, suivre des artistes musicaux virtuels ou faire sa vie avec une fiancée virtuelle elle aussi. Enfin sa vie. Il faut pour s'en assurer bien lire les CGU du service. En 2019, un certain Akihiko Kondo, qui rentre dans la catégorie des ficto-romantiques, avait annoncé son mariage avec un produit dérivé d'une chanteuse virtuelle nommée Hatsume Miku. La femme d'Akihiko était commercialisée sous forme d'un hologramme dans une petite boîte connectée. Il est désormais veuf, en quelque sorte, puisque son FAI, fournisseur d'amour inconditionnel, a coupé les serveurs auxquels la boîte était connectée. Mais s'il surmonte son chagrin, il pourra retenter sa chance avec les nouveaux services qui pullulent en Chine notamment. Le phénomène semble y connaître un succès fulgurant chez les hommes comme chez les femmes. Les adeptes de ces applications vantent une relation où l'autre est toujours disponible, toujours tourné vers soi, et avec qui on peut avoir des discussions qu'on n'arrive pas à avoir avec d'autres. Tout ça fleure bon le narcissisme forcené, et peut-être que tout ce qu'on lit sur la Chine et ses enfants rois générés par la célèbre politique du lardon unique fait effectivement la différence. Mais ce n'est certainement pas un monopole asiatique que de se mirer à l'infini dans ces miroirs amplificateurs de vanité que nous offrent toutes ces applis. Le code qui fait tourner l'humanité est foncièrement buggé. Le narcissisme le plus débridé génère une récursivité infinie. Dès lors qu'elle est publique, la gratification narcissique et son shoot de dopamine alimentent une boucle de renforcement. Les concepteurs de réseaux sociaux ont sciemment exploité cette faille pour rendre leur service addictif. Allez, je fais une prédiction facile, dans peu de temps, on pourra s'abonner à des IA répliquant des gens célèbres qui cocheront leurs utilisateurs. Une chose est certaine, c'est que ces relations virtuelles alimentées par des IA vont littéralement atomiser ce qui restait de vie privée à leurs utilisateurs et par ricochet à leurs proches. Le fichage extensif des réseaux sociaux que nous connaissons sera probablement considéré comme grossier et primitif face à ce que pourra faire un de ces confidents virtuels à qui on dit tout ce qu'on ne peut pas dire à ses proches. Pour ceux qui ont encore l'ambition de nouer une relation qui ne soit pas illusoire, les choses se compliquent. Des études montrent que dans le monde occidental, un fossé s'est creusé entre les hommes et les femmes de moins de 30 ans. Les jeunes femmes sont plus souvent progressistes, les jeunes hommes plus souvent conservateurs que par le passé. Les deux ont bien du mal à se rejoindre. Considérant les liens malsains qui relient les incels et l'extrême droite, on peut anticiper que ce hiatus ne débouche sur rien de bon pour les jeunes femmes. Et puis, Boxing Macron a parlé de réarmement démographique. Les utérus sont désormais des ressources stratégiques qu'il faudra mobiliser quoi qu'il en coûte. Merci à la jeune génération de déverser leur progéniture dans nos casernes. J'ai pas mal dérivé depuis le point de départ qui était des bombasses, et c'est donc le moment de ressortir Taylor Swift dont j'avais parlé la dernière fois. Elle a aux US un succès phénoménal. Elle est milliardaire, certes, mais elle a aussi une influence considérable sur la population. Des sondages estiment qu'elle pourrait même faire basculer l'élection présidentielle du côté du vieillard sénile actuellement en poste, au détriment du vieillard sénile et fou qui veut revenir. Dans ce pays, le droit à l'avortement a été remis en cause. On y envoie désormais des femmes en prison pour 40 et quelques années grâce notamment aux données rachetées aux GAFAM. Une bombasse comme Taylor Swift, qui démontre tant d'autonomie et d'influence, déplaît. C'est donc assez naturellement qu'elle fait l'objet de détournements pornographiques massifs, encore une fois grâce aux IA génératives. Tellement massif que même le réseau du délinquant financier toxicomane d'extrême droite le plus célèbre du monde a décidé de bloquer les recherches relatives à Taylor Swift. Pour la protéger sans doute, mais incidemment la voilà donc partiellement invisibilisée sur Twitter. Même si notre époque ressemble à un entonnoir nous concentrant vers diverses catastrophes, la violence et l'asservissement ont toujours été une des façons de fonctionner privilégiées d'Homo sapiens. Le respect mutuel et l'écoute n'est qu'une stratégie évolutionniste parmi d'autres, et sans doute pas celle qu'elle vend en poupe actuellement. Alors peut-être qu'une illusion bien faite, et qui ne serait pas contrôlée par autrui, avec une fiancée virtuelle qui resterait à la cuisine, une bombasse qui se contente du luxe modéré d'un studio de célibataire, ou un amant qui ferait oublier que même entouré, nous sommes foncièrement seuls, est finalement un moindre mal. Parce que l'humain, c'est très surfait.
De retour en direct dans Libre à vous, l'émission qui vous raconte les libertés informatiques, c'était la pituite de Luc. Nous approchons de la fin de l'émission, nous allons terminer par quelques annonces. Initiée et coordonnée par l'April, l'initiative Libre en fait revient pour la 23e année consécutive. Pour accompagner l'arrivée du printemps, des événements de découverte du logiciel libre et de la culture libre sont proposés par plusieurs organisations partout en France autour du 20 mars. L'édition 2024 du Libre en fait a lieu du samedi 9 mars au dimanche 7 avril. Tous les événements à retrouver sur l'agenda du libre.org. Sinon, que faites-vous vendredi 29 mars? Si vous êtes en région parisienne, n'hésitez pas à passer nous voir au local de l'April dans le 14e arrondissement de Paris pour un temps convivial de rencontres. Tout le monde est bienvenu, membre ou pas, et à partir de 19h. Le 29 mars, toujours en région parisienne, c'est la journée du libre éducatif, avec notamment une chronique en direct de Laurent et Laurette Costi à 11h45. Événement, je le précise, réservé aux enseignants, enseignantes et ou agents de la région Académie Île-de-France. Et si c'est votre cas, n'hésitez pas à y passer. Et si vous avez bien écouté la chronique de Laurent et Laurette, pensez à applaudir à l'évocation du terme Ekbalium, ça leur fera plaisir. Je vous invite à consulter le site de l'agenda du libre, agendadulibre.org, pour trouver des émissions en lien avec le logiciel libre ou la culture libre près de chez vous. Notre émission se termine. Je remercie les personnes qui ont participé à l'émission, Laurent et Laurette Costi, Florence Chabanois, Pierre Pessac, l'incroyable Luc. Aux manettes de la régie aujourd'hui, Julie Chomard. Merci également aux personnes qui s'occupent de la post-production des podcasts, Samuel Aubert, Élodie Daniel Giraudin, Languin, Julien Haussmann, bénévole à l'April, et Olivier Gréco, le directeur d'antenne de la radio. Merci aussi aux personnes qui découpent les podcasts complets des émissions en podcasts individuels par sujet, Quentin Gibault, bénévole à l'April, et mon collègue Frédéric Couchet. Vous retrouverez sur notre site web libreavoue.org toutes les références utiles ainsi que sur le site de la radio causecommune.fm. N'hésitez pas à nous faire des retours pour indiquer ce qui vous a plu mais aussi des points d'amélioration. Vous pouvez également nous poser toutes questions et nous y répondrons en direct ou lors d'une prochaine émission. Toutes vos remarques et questions sont les bienvenues à l'adresse contact@libreavoue.org. Si vous préférez nous parler, vous pouvez nous laisser un message sur le répondeur de la radio. Pour réagir à l'un des sujets de l'émission, pour partager un témoignage, vos idées, vos suggestions, vos encouragements ou pour nous poser une question. Le numéro du répondeur est le 09 72 51 55 46. Je répète, 09 72 51 55 46. Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous et à faire connaître également la radio Cause Commune, la voix des possibles. La semaine prochaine aura la prochaine émission plutôt aura lieu en direct mardi 2 avril à 15h30. Notre sujet principal portera sur les évolutions majeures dans la gouvernance des logiciels libres. Nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée. On se retrouve en direct mardi 2 avril et d'ici là, portez-vous bien.
Cause commune, retour sur 93.1 à 21h et retrouvez nos programmes sur cause-commune.fm. commune.fm